Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
Galère, bonjour. C'est Odile et Françoise. Nous sommes le mercredi 12 mai et nous allons vous présenter un livre de Xavier Houssin. Il s'appelle L'officier de fortune. Il est paru chez Grasset avec pour la deuxième édition en 2020 une édition de Firmin Diderot. Diderot, pas Diderot, qui est un sous-traitant. Quelques mots sur l'auteur. On ne peut pas en savoir grand-chose, étant donné que sa biographie est titrée en paragraphe blanc dans Internet. Mais c'est quelqu'un qui est non seulement auteur de romans, mais de poésie. Il n'est pas du tout dans nos choix habituels, hein, ça s'est trouvé parce que le titre était intéressant, il pose d'ailleurs problème, on tâchera de le résoudre, l'officier de fortune. Et moi, c'était Oudé Gallimard, comme je dis en riant, et je cherche un beau style, ou bien c'est des choses qui correspondent à l'actualité du moment et à nos opinions. Là, c'est très, très différent. Il n'est pas dans la... comment dire... il vit à Paris. Et il est né à Paris d'ailleurs. Mais c'est pas le cercle de l'élite parisienne. J'ai pas eu l'impression, d'après ce qu'on dit de sa vie. Alors je viens à ses romans, puisque c'est ça qu'on connaît de lui. En 2004, il a commencé par un titre, 16 rue d'Alveig. 205, le premier pas suffit. 2009, qu'est-ce que je raconte 200 ? La mort de ma mère, 2020, l'officier de fortune. Alors, est-ce qu'on peut voir des souvenirs de son père? Après avoir écrit pour sa mère, il écrit pour son père, faisant l'égalité. Et quant à son dernier livre de poésie, c'est L'herbier dans... L'herbier dans la bibliothèque. Voilà. Et pour lequel il a eu le prix Paul Nizan de l'Académie française. Et oui, quand même, hein. L'Académie française, il fait partie de l'élite, malgré ce que je dis d'après les photos qu'on voit de lui. Et il pose pas en costume d'académicien. Et tout de suite, on va vous le présenter. Ça va se faire en deux parties. Bon, première présentation.
Yvonne est morte il y aura bientôt 2 semaines. J'ai envoyé une lettre à Jeanne ce matin. Des années et des années que nous ne nous donnions plus de nouvelles. Du tout. Je ne mettais même plus un mot dans l'enveloppe du mandat du trimestre. Les 1 000 francs pour le garçon. J'ai beaucoup hésité avant de me décider. Je ne savais pas bien quoi dire, mal à l'aise. Mais j'ai écrit. Chère Jeanne. Et puis non, Jeanne. Yvonne repose depuis vendredi dernier à côté de Monique, notre fille. Non, repose depuis vendredi dernier à côté de Monique, sa fille, au cimetière de la Martinière à Savigny. Jeanne sait bien qui est Monique, je lui en ai parlé. Comme c'est difficile de faire tenir ensemble les phrases et le temps, de reprendre le fil. J'ai fini en disant, si tu veux, si tu penses, réponds-moi. Je suis allée à la poste. Le sort en est jeté, il fait gris, déjà froid. Demain, samedi 13 octobre, j'aurai 70 ans. Je ne sais pas ce que Jeanne décidera. En descendant l'avenue Jules Marquis, j'ai pensé à l'âge, à ce qui me restait. 1 an, 5 ans, 10 ans, pas de quoi faire des projets en tout cas. Je voudrais simplement me sentir en paix. Je suis fatiguée, perclue de regrets, de remords fuyants. Ma vie m'a échappé. J'ai pourtant cru, tout au long, la tenir, la diriger. Mais en fait, ce sont les événements qui ont commandé.
Voilà comment il se présente à quelqu'un qui est plein de nostalgie et qui a, semble-t-il, comme on dit vulgairement, raté sa vie. Mais c'est qu'il y a bien autre chose chez cet homme.
Une vingtaine d'affectations. L'Afrique du Nord, l'Indochine, le Pacifique, la guerre, les guerres. J'ai mon devoir. Et maintenant, j'ai trouvé un carton posé à l'entrée du pavillon. C'est la livraison de Rohrbacher, l'épicier. Des conserves, du pâté de jambon, du thon à la sauce catalane, des cœurs de céleri. Je me nourris de boîtes, un saucisson, des pommes, 2 bouteilles de vin des Rochers, 1 de Cabernet d'Anjou, et du pain en tranches. Cela fait un moment que je me fournis chez le bonhomme. Un coup du hasard. Un soir, je descendais du train de Paris, sortant d'une après-midi idiote au cercle des armées de Saint-Augustin. Voilà que dans la gare, je me suis entendu appeler « Mon colonel, mon colonel !» Je me suis retournée. Devant moi, un espèce de type essoufflé, rouge d'émotion, s'est figé dans un garde-à-vous saugrenu. « Caporal-chef Rohrbacher, mon colonel, j'étais sous vos ordres à Djidjeli. » Aucun souvenir. « Au matériel, » a-t-il continué. « Mais oui, bien sûr, ai-je fait pour couper court. »« Vous habitez Bretigny, mon colonel ?» Il avait ouvert son commerce à la fin de son engagement. Dès le lendemain, il sonnait à la porte. Djidjeli, j'y suis resté une petite année avec le 4e RIC. On s'est surtout battu... Régiment d'infanterie coloniale. On s'est surtout battu contre les rebelles algériens. Avant, j'avais aussi en charge le secteur de Gafsa en Tunisie. J'avais pris le commandement du régiment à la fin de l'été 55, au moment de la naissance du garçon. Il porte mon nom. Je l'avais reconnu avant mon départ. Comment faire autrement? Je suis encore persuadée que Jeanne avait essayé de me forcer la main, de me coincer. J'avais tenu bon. D'autant que quitter Yvonne m'apparaissait au-dessus de mes forces. Avec elle, la séparation s'annonçait atroce. Elle était tellement mauvaise, capable de tout. Tant de fois j'ai souhaité qu'elle meure. Aujourd'hui, je porte le poids de ses pensées meurtrières. D'autant qu'il est trop tard, 70 ans. À Gafsa, le régiment avait mené une campagne compliquée. Nous étions en plein dans la rébellion. Les terroristes d'Algérie se servaient de la Tunisie comme base arrière pour leur maquis du Constantinois. Trafic d'armes, propagande, recrutement. Pourtant, j'ai réussi à faire du bon travail. À Djidjeli aussi. Cassé du FLN jusqu'au bout, m'avait écrit Guy Yvon, avant que je ne parte au Laos, mon dernier poste avant la retraite. Ce qu'on avait fait, mais c'était la fin de tout.
C'est du bon travail, ce qu'on avait fait. Vous voyez comme les expressions dissimulent la réalité des choses dont il n'a peut-être pas parlé à Jeanne, d'ailleurs. Et c'est comme ça que tout devient, quand il s'agit de ses différentes missions, comme il dit, tout devient comme flou, comme lisse, tout à fait lisse. À noter, je reprends les deux premières lectures que vous avez entendues. Le début, 3 noms propres se marquent bien. Celle qui est morte, la méchante, c'est flûte.
Yvonne.
C'est Yvonne. Et puis Jeanne, celle qu'il a aimée, mais dont il est séparé depuis des années, puisqu'il y a des années qu'ils ne sont pas vus. Et il lui écrit au moment où Yvonne est morte. Et puis il y a Monique, qui était sa fille, et dont il dit c'est la fille de Jeanne. Elle est enterrée avec elle. Voilà donc comment se présentent les choses. Et on comprend qu'il n'a pas voulu quitter Yvonne de tout le temps qu'il a été marié avec elle. Et il montre bien pourquoi et reste avec elle et pourquoi c'est important dans l'année 20, Iran pile. C'était pour le régiment d'infanterie coloniale.
Moi, qui déjà n'en pouvais plus de ma vie de gratte-papier, j'avais reçu des offres pour reprendre du service. L'infanterie coloniale cherchait des volontaires pour l'Afrique du Nord. On me proposait d'autres perspectives que lorsque je m'étais enrôlée à 18 ans. À la sortie de la période d'instruction, je serais sous-lieutenant. Yvonne s'était rendue à mes arguments. Être femme d'officier la flattait plutôt, sans compter la solde. Je l'ai accompagnée pour le déménagement. La semaine suivante, je rejoignais le camp d'Auvours dans la Sarthe. Et quelques mois plus tard, je me présentais, mon galon doré cousu sur la manche, au 1er RIC, caserne Proto à Cherbourg. Sans le savoir alors, je m'étais sauvée du pire. J'allais pouvoir être vivant. Au marché, je suis tombée sur Lucienne Sola, une voisine, veuve, avec qui Yvonne prenait le café de temps en temps. Elle m'a regardée avec des yeux de chien battu.
Oui, puisqu'il est veuf.
Alors, cette solitude. J'ai eu envie d'être féroce. J'ai bredouillé une ou deux phrases de circonstance et j'ai passé mon chemin.
J'ai eu envie d'être féroce et puis j'ai bredouillé une ou deux phrases de circonstance. Il n'a pas du tout été féroce. C'est typique de lui, il est comme ça.
Je ne suis pas restée bien longtemps. Autour des détails se bousculait toute une foule de types attifés en gandoura, leurs bonnes femmes en fichu et babouche. Dans la cuisine, au retour, j'ai goûté aux pommes que j'avais achetées chez le fruitier. Je les ai trouvées amères.
On n'est plus en Alger, on revient là où il est,
à Brétigny. Nous allons page 33. Jeanne a répondu.
Ouais.
J'ai reconnu tout de suite son écriture sur l'enveloppe. Et j'ai remarqué, à côté du timbre, la flamme postale avec la cathédrale de Senlis. C'est là qu'elle habite depuis la naissance du garçon. Elle est professeure de mathématiques dans un collège de bonnes sœurs. Je ne suis allée qu'une seule fois chez elle, juste débarquée de Djidjeli, avant de partir à Seno. Le petit n'avait pas 3 ans. Je ne l'avais jamais vu. J'avais fait l'aller-retour en car de Paris sur la journée. Je m'étais un peu imaginée en partant que je passerais la nuit là-bas, voire que j'y resterais davantage. J'avais même pris quelques affaires. Sauf que je savais bien que Jeanne ne céderait pas. Elle m'avait clairement expliqué, puisque je refusais de quitter Yvonne, que notre histoire était terminée. J'aurais pourtant voulu y parvenir. J'y avais beaucoup songé. Mes fils devenus grands, j'aurais pu me sentir libre. Mais affronter Yvonne me paraissait impossible. Je ne voulais pas me l'avouer, mais elle me faisait peur. Depuis le début, je m'étais raisonnée en m'inventant qu'auprès de Jeanne, l'existence pouvait peut-être devenir tout aussi insupportable. Je savais bien que ce n'était pas vrai. En fait, j'aurais aimé continuer avec elle notre intimité discrète, notre vie commune d'outre-mer, celle d'Indochine, de Tunisie, de la Martinique. Depuis notre rencontre en 1946, elle m'avait toujours suivie dans mes affectations. Et il y avait eu cet enfant. D'une certaine manière, je m'étais trouvée soulagée de devoir rejoindre mon nouveau poste avant l'accouchement. Ça m'avait quand même travaillé une fois arrivée, que Jeanne mette ce bébé au monde sans personne. Elle n'avait auprès d'elle que sa mère venue du nord de la France. Elle m'en a voulu. Qui sait si elle ne m'en veut pas encore. À Senlis, je l'avais trouvée très belle. Elle avait 40 ans alors, et moi, toujours 15 de plus. Le gamin était gentil. Je me sentais tout bousculé d'émotion. Mais je m'étais repris. Vite. J'avais chassé ce mirage d'une autre vie. On verrait après. Quand je reviendrai du Laos, peut-être. J'étais partie en fin d'après-midi. Nous ne nous sommes plus revus. On s'est écrit beaucoup, puis moins, puis presque plus. Tous les 3 mois, j'envoyais le mandat pour le garçon. Un chèque aussi, de temps en temps. Les lettres de Jeanne, je les brûlais après les avoir lues. Les dessins du petit qu'elle y glissait à l'époque aussi. Pas de traces. Rien qui puisse me trahir. Sauf que j'ai fini quand même par me faire prendre. Bien plus tard. J'étais à la retraite depuis 5 ans. Je m'ennuyais ferme. J'avais travaillé un moment comme fondée de pouvoir pour un négociant de vin de Bourgogne, mais je m'étais vite aperçue que je lui servais seulement d'homme de paille. J'avais démissionné avant les ennuis. Décidément, je n'étais pas douée pour la vie civile. Alors, je ne faisais plus rien, sauf lire, cloîtrée dans mon bureau. Deux fois par semaine, j'allais au cercle militaire à Paris. J'y déjeunais. Je feuilletais les journaux, rien d'autre. J'opposais un silence poli à toute conversation, qu'on me fiche la paix. Un soir, en rentrant, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Yvonne m'attendait plus rêche encore qu'à l'habitude. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle avait fouillé dans mes affaires. Sur la table de la salle à manger, il y avait mes carnets de dépenses et les talons de mandat que j'avais conservés. Depuis ma jeunesse, j'ai la manie des comptes. Je note tout. J'ai encore en tête ces hurlements. « Saligo, saligo !» Après cela, nous ne nous sommes plus jamais adressé la parole. Dans un sens, c'était bien mieux. Même si Yvonne savait faire gronder son silence. Nous aurons partagé ainsi le même toit pendant encore 8 années. La plus longue période que j'aurai jamais passée en tête à tête avec elle. Sans un mot. Quelques-uns à la fin, les derniers. Je les ai oubliés. Sincèrement, je ne me souviens plus. Elle est partie sans que nous tentions ni l'un ni l'autre de nous réconcilier. Ces années m'étouffent. J'ai mis un bon moment avant de décacheter la lettre de Jeanne.
À remarquer, il brûle tout, il cache tout, mais il garde ses mandats parce qu'il a l'habitude de garder les choses où il y a des chiffres et des questions d'argent. Et on se demande comment il peut faire en s'ennuyant tellement ses journées avec simplement 2 fois par semaine le voyage à Paris et le dîner au cercle. Et que sinon il passe son temps dans son bureau à ne rien faire. Et il a quand même pu tenir 5 ans, comme il dit. Et comment vivre en se disant pas un mot, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et en même temps que ses souvenirs, on apprend un événement très important pour le livre. Il a reçu la lettre de Jeanne. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Et elle dit rien. Sauf qu'elle laisse entendre que s'il veut, ils peuvent se donner rendez-vous. Ce qu'ils vont faire, et c'est pas du tout le même rendez-vous qu'en 1950, quand il va, au moment de repartir pour l'Indochine, et quand il dit « j'avais même emporté mes affaires, je pensais que je passerais la nuit et peut-être plus ». Eh bien, pas du tout. Elle tient bon et elle dit « Où on se marie, où c'est fini ?» Et par conséquent, il passe des années sans s'écrire. Il dit très bien comment ça se passe. D'abord, ils s'écrivent beaucoup, puis un peu moins, etc. Voilà. Et Jeanne lui propose donc un rendez-vous. Et ça se passe bien, mais paisiblement, sans effusion qui serait... Dommage pour lui, il n'aime pas les effusions. Il dit que parfois j'étais tout ému, c'était en 45, j'étais tout ému, mais je me suis repris. Alors il ne faut pas être ému, il faut se reprendre. Et alors, il se rend compte quand même après coup, quand il revient chez lui tout seul, qu'il a envie de revoir son fils. C'est ce qui va se passer. Il donne rendez-vous. Ça se passe apparemment bien. Mais en fait, le fils, très, très décontracté au début, alors il paraît que j'ai 2 frères, parce qu'avec Yvonne, il a 3 enfants, une petite fille qui est morte, et deux garçons. Et alors, mais il ne parle pas de grand-chose, et ça se passe bien, mais on ne peut pas dire que ça se passe très bien.
J'en suis à la page 46.
Vas-y.
Je me suis sentie seule de retour à Brétigny, mais vraiment seule, comme je ne crois pas que ça m'était jamais arrivé. Je ne me trouvais pas malheureux, pas en peine, seulement vide. Le monde sonnait creux. J'ai ouvert la porte, regardé au dehors. Il faisait nuit noire, l'air était glacé. Je me suis souvenue de la bouteille de cognac dans le bas du buffet. « Pour les gens », disait Yvonne, du temps où elle invitait encore sa sœur et son beau-frère à dîner. Elle devait être là depuis plus de 10 ans. Pas entamé. Je m'en suis servi une bonne rasade. J'en ai repris. Je me suis sentie mieux. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai repensé à la journée. Jeanne ne m'avait fait aucun reproche. Elle n'avait rien demandé. Elle m'avait laissé décider. Je veux le voir, ce garçon. Elle m'avait embrassé sur la joue avant de descendre dans le métro. À bientôt. J'avais marché sur le boulevard. J'étais dans un état étrange. Je pensais à ce tout jeune homme de fils avec qui j'allais devoir faire connaissance. Et je me disais qu'il allait sûrement m'en vouloir, comme les deux autres, ceux que j'avais élevés, enfin de loin. Francis avait 1 an quand je suis partie au Maroc, 5 ans à mon départ en Indochine, juste après, 7 à mon retour fin 1934. Après, ça a été le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, Nouméa. Mais je ne me suis pas embarquée seule cette fois-ci. Yvonne avait décidé qu'elle m'accompagnerait. « Tu as le droit de nous emmener », je me suis renseignée. Elle me remettait le grappin dessus. Jean est né là-bas. Un retour d'affection, si l'on veut. Comme si je croyais encore à ces bicheries. Je m'étais pourtant juré qu'après la mort de Monique, il ne se passerait plus rien. Quel idiot! Yvonne pestait tous les jours. Le climat de l'île ne lui convenait pas. Trop chaud, trop froid, il pleuvait. Elle s'ennuyait. Les femmes des officiers, des administrateurs, étaient des pimbèches ou bien des garces. La javanaise employait pour le ménage une voleuse. Tous les indigènes lui faisaient peur. Quant aux enfants, le grand lui tapait sur les nerfs, le petit lui causait trop de soucis. Et puis il y a eu la guerre. J'étais rapatriable à l'automne 1939, alors même qu'elle commençait. Mais on ne va pas rentrer maintenant, c'était d'étrangler Yvonne. Je venais de monter en grade, capitaine. Nous avons quitté Nouméa en juin 40. Sur le bateau, le ville d'Amiens, après quelques jours de mer seulement, j'ai appris la défaite, l'armistice, la France honteusement coupée en deux. Quelle rage et quel sentiment d'impuissance. On nous a débarqués à Papeete. C'est là que j'ai rencontré Broche.
Et voilà, Broche, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour lui, semble-t-il, encore plus que ses enfants. Il lui voue une admiration sans borne et puis il se sent surtout comme un frère avec lui, mais les choses ne vont pas tourner comme il aurait voulu.
Le capitaine Félix Broche était à la tête de la compagnie autonome d'infanterie coloniale de Tahiti. À 2 ans près, nous avions le même âge. Nous nous sommes plus immédiatement. Dans la drôle d'expectative de ces jours, nous avions tous les deux fait notre choix. Nous voulions nous battre. Dès septembre, nous rejoignions les forces françaises libres. Nous étions dans ces lointains territoires les seuls officiers d'actifs appartenant aux armes combattantes à nous rallier. Fallait-il que nous soyons bravaches ? Quelques semaines après, De Gaulle donnait à Broche le commandement supérieur des troupes du Pacifique et à moi, sous ses ordres, celui du bataillon de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes rentrés ensemble à Nouméa, où tout restait à faire. Dieu sait que nous l'avons fait. Broche est parti avec un contingent pour le Moyen-Orient. Il est tombé à Bir Hakeim. Je suis restée dans l'île pour faire face aux menaces d'invasion japonaise. Et j'y ai aussi contenu les troubles intérieurs survenus après l'arrivée des Américains. Je n'y suis pas pour rien si le drapeau de la France libre a continué à flotter sur la colonie. D'Argentlieu le savait bien. En partant pour Londres, il avait officialisé mon poste de commandant supérieur des troupes, dont j'assurais l'intérim à la suite de Broche. Je l'ai conservé jusqu'au début 1944. On m'en a relevé. Je garde de ces années une fierté mêlée d'amertume. Je n'ai connu que brièvement des combats, le temps d'une expédition au Salomon. La menace nippone éloignée, j'ai voulu rejoindre les champs de bataille d'Afrique ou d'Europe. Je n'ai pas cessé de demander. Je n'ai jamais su pourquoi on m'a maintenu sur place jusqu'en janvier 1945. À la fin, je me sentais comme en prison. Une prison, c'est ça. Tu nous as enfermés ici, me répétait Yvonne. Dès le début, j'avais essayé de l'éloigner, elle et les enfants, de les mettre à l'abri, de les envoyer au Canada ou en Nouvelle-Zélande, en Australie. Rien n'avait été possible, ils étaient restés.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec Thierry d'Argentlieu ? Pourquoi il a été si mécontent ? C'est qu'il était de passage dans l'île et le narrateur devait, parce que c'est écrit à la première personne, il devait jouer de la musique pour saluer son arrivée. Mais il n'a pas du tout joué la Marseillaise parce qu'il l'a réservée à l'arrivée du préfet, pensant que c'était plus important que le militaire. Thierry d'Argentlieu était furieux et il a donc fait partir en le nommant à Marseille un espèce de lot de consolation. Et il est d'autant plus vexé que il voit un autre grand personnage, on voit qu'il est dans les hauteurs, hein, un autre grand personnage qui me dit, vous savez, je vous ai défendu de m'en tirer d'argent lieu, c'est scandaleux, je verrai ce que je peux faire. Et puis il n'a rien fait du tout, évidemment. Et lui, pendant ce temps, Marseille, il attendait sa nouvelle nomination tout en rongeant son frein et en étant tout plein d'amertume.
En 1950, avant la Martinique, j'avais été désignée à nouveau pour l'Indochine. Major de la garnison de Saïgon, Jeanne devait m'y retrouver. Mais mon séjour là-bas avait tourné court. 3 mois à peine après avoir pris mes fonctions, Delattre de Tassigny m'avait brutalement renvoyé. J'en suis encore ulcérée, encore humiliée. En fait, il me punissait d'un crime de lèse-majesté. Lors de la prise d'armes au départ de l'ancien haut-commissaire Léon Pignon, qu'il remplaçait, je n'avais pas fait jouer la Marseillaise. Je n'avais fait jouer la Marseillaise que pour le ministre d'État, le Tourneau, venu l'investir dans ses nouvelles fonctions. Lui avait été salué par la sonnerie au champ. V'là le général qui passe. Il s'en était froissé. En la matière, je n'avais fait pourtant qu'appliquer le règlement. L'hymne national ne doit être joué qu'une seule fois lors d'une cérémonie et pour la plus haute personnalité présente, en l'occurrence le ministre. Lui se pensait bien au-dessus de tout ça. 15 jours après l'incident, j'embarquais sur le Jamaïque à destination de Marseille. Le 1er janvier 1951, drôle de façon de commencer l'année. Rien n'avait pu contrarier sa décision. Mon chef, le général Chanson, m'avait défendu sans réserve. L'autre n'avait pas daigné l'écouter. J'ai haï ce bouffi d'orgueil de tout mon cœur. Chanson a été assassiné l'été suivant par un fanatique caudaïste. Delattre est mort peu après. De mortuis aut bene, aut nihil.
Au sujet des morts, ou bien on en dit du bien, ou bien on se tait. Donc il ne parlera pas plus longtemps de Thierry d'Argenlieu, mais on voit qu'il ne le porte pas dans son cœur. Sa vie va continuer malgré tout, et on va réapparaître le souci qu'il a de ses fils. On passe donc de la vie militaire à la vie de famille.
En dehors de ses frères, il ne s'était pas montré très curieux.
C'est le garçon qui n'est pas très curieux de ses frères, sauf un petit peu de ses frères, mais pas du tout du reste de la famille.
J'avais proposé d'organiser un déjeuner avec Jean, mais pour Francis, j'étais resté évasif. Comment expliquer ce que je ne comprenais pas bien moi-même, cette succession d'échecs, de révoltes? La dégringolade avait commencé en Nouvelle-Calédonie. Il n'avait pas 10 ans quand nous avions débarqué là-bas. Au début, il pleurait tout le temps. Ça se passait mal à l'école. Ensuite, il s'est accoquiné avec les plus mauvais sujets qu'il a pu trouver. À part les 400 coups, il ne faisait rien. Il ne voulait rien faire. Il est devenu un bon à rien, agressif avec ça. À 15 ans, il s'est mis à détester sa mère qui lui avait déjà appris à me détester. Il tenait tête. Je parvenais tout juste à le faire plier. Il me regardait les dents serrées, les yeux mauvais. J'ai tout essayé. Au retour en métropole, j'ai tenté de le faire entrer dans l'armée. Il m'a envoyé promener. Une fois majeur, il a fichu le camp. Il est resté un moment à vivre au crochet de sa grand-mère à Carole, la seule qui avait grâce à ses yeux. Puis, il s'est évanoui dans la nature, laissant juste une adresse poste restante à partir de laquelle il avait, un moment encore, réclamé de l'argent. « Jean sait, paraît-il, où il habite aujourd'hui. Je ne l'ai pas revu, m'a-t-il juré. Je m'en balance, d'ailleurs. Le garçon se débrouillera avec ça. » J'avais posé ma main sur celle de Jeanne. Sur la place du Palais-Royal, il tombait maintenant une petite pluie fine. Nous n'avions pas envie de bouger, du tout. On pourrait peut-être rester dîner ici, avais-je proposé. C'est largement l'heure.
Voilà, ils se retrouvent dans un endroit où ils ont été heureux, à Paris, ensemble. C'est le 7e arrondissement. Et soudain, après cette soirée, il prend la décision, tout seul d'ailleurs. Hein. Je veux me marier. Et ça va être, on va voir comment ils s'apprivoisent l'un à l'autre, parce qu'ils ont quand même 15 ans de différence et puis ils sont âgés, donc c'est pas évident.
Nous nous sommes mariés, ça s'est décidé vite. Nous déjeunions chez Doucet, avenue de la Motte-Piquet. Depuis peu, nous revenions dans ce coin du 7e arrondissement, près de l'école militaire. Nous y avions vécu presque un an avant mon départ pour Gafsa. Après notre rencontre en Indochine, nous avions enchaîné toute une succession de parenthèses, une suite de moments clos. Avec le temps, je parlais de moins en moins d'avenir. En fait, j'avais renoncé à me l'imaginer. Je voulais juste profiter avec elle du présent. Elle ne s'en plaignait pas. Elle n'en disait rien plutôt. Nous étions heureux tous les deux, moi surtout. Ces mois auront été les derniers que nous avons passés ensemble. Être avec Jeanne à Paris me ravissait. Mais je restais dans un rêve. Je cultivais une illusion. La réalité m'a rattrapée lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle attendait un enfant. Encore aujourd'hui, je ne saurais dire quel était vraiment mon sentiment. Quel embrouillement quand j'y pense. J'ai fait face comme j'ai pu, mal je crois. D'alors, je voudrais ne garder que la tendresse et la douceur. Pas mes lâches inquiétudes, mes indécisions. Ce quartier, quelques pâtés de maison entre Champ de Mars et Invalides, avait tout accueilli de nous et nous avait gardés finalement en sûreté. Chacun de notre côté, nous en avions conservé la mémoire sensible. Jeanne m'y avait ramené comme s'il fallait reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée. Le décor était presque le même, il avait si peu changé. Nous nous étions retrouvés familiers en pays de connaissance. Nous reprenions nos promenades, fréquentant les mêmes cafés, les mêmes restaurants, souriant à nos ombres. Un jour, à un de nos rendez-vous, elle était arrivée étrangement émue. « Tu sais, notre fils habite par ici maintenant. » Le garçon avait trouvé un studio à louer dans la rue de Grenelle. C'est à côté. « Tu te rends compte ?» Elle n'en revenait pas. Qu'ainsi tout se rapproche, se boucle. Ça ne peut pas être qu'une coïncidence. J'avoue que le hasard s'emparait étonnamment des choses. J'étais troublée moi aussi. Nous étions allés voir ses fenêtres, un troisième étage au-dessus d'un bistrot. Allez, on ne va pas rester planté là, comme deux idiots. Il était midi passé. Comme nous remontions la rue Claire, j'ai posé en marchant mon bras sur ses épaules. Deux idiots. Nous avions échoué chez Doucet. En route, j'avais réfléchi à ce que je voulais lui dire. Au mariage. J'ai versé du vin dans nos verres. Si tu te domiciliais à son adresse, cela pourrait se passer à la mairie du 7e.
Voilà, cela pourrait se passer, cela, le mariage. Et en l'honneur de cette boucle qui est passée, nous allons écouter un peu de musique.
Way up high, the
Galère, mercredi 12 mai. Xavier Houssin, l'officier de fortune. Nous engageons la deuxième partie de ce roman qui se consacre au rapprochement, si on peut dire, des deux personnages principaux, Jeanne et l'officier de fortune, et apparaissent là les enfants, mais ils apparaissent pas longtemps, vous allez voir, et c'est ainsi que nous voyons les deux protagonistes arriver à Carole. C'est là où c'était la maison de sa mère, et ils voudraient que Jeanne vienne, et elle a toutes les raisons de ne pas avoir envie de revenir à Carole, parce qu'elle aime avant tout la campagne et les marches. Et c'est ainsi qu'il va lui faire visiter la maison.
C'était l'anniversaire de Jeanne, vendredi dernier, et le début pour elle des vacances de Pâques. Façon de parler, car le dimanche de Pâques est le 14 avril cette année, et ses cours reprennent une semaine avant. « Nous devrions partir un peu », m'avait-elle dit. « Pourquoi pas à Carole ?» J'y pensais, bien sûr. Mais j'avais repoussé plusieurs fois l'idée de lui en parler. Ça me paraissait compliqué. Je m'étais contentée de payer les impôts, l'abonnement, au courant. La maison devait être dans un drôle d'état. 7 ans déjà qu'elle était vide. Je ne savais pas quel temps il avait fait en Normandie, mais à Senlis comme à Bretigny, la neige était tombée début mars. Une bonne couche qui était partie en eau, rendant le sol boueux. Sans chauffage, volets fermés, et depuis si longtemps, tout là-bas devait être humide et glacé. Dehors, le jardin avait dû disparaître sous les ronces et le chien-dent. Il faut aller voir. J'ai envoyé un mot au Bassard, les voisins qui avaient toujours la clé, César et Raymonde. Lui est jardinier dans les propriétés du coin. Elle s'occupe de quelques vaches et rend des services un peu partout dans le village. Des braves gens. Elle a pourtant pris soin de ma mère vers la fin. Elle a beaucoup pris soin de ma mère vers la fin. Je ne sais pas si je l'ai assez remerciée. La réponse est arrivée très vite. Le ménage serait fait, le poêle allumé, la friche nettoyée. J'étais soulagée. Jeanne aurait aimé que le garçon nous accompagne, mais il avait mieux à faire. Il s'était organisé une escapade, je ne sais où, avec sa dulcinée. Il me l'avait d'ailleurs présentée, plutôt jolie, plutôt gentille, Nicole. Elle m'avait embrassée sur les deux joues. Je sentais bien depuis le début que cette histoire ne plaisait pas beaucoup à Jeanne. Elle était tracassée. « Ne te retourne pas les sangs, ça lui passera. » Dans un sens, j'étais assez content qu'il ne vienne pas. J'avais envie de ce retour, mais seulement avec elle. Je ne voulais rien avoir à raconter, rien à expliquer. Longue route en voiture. Parti tôt, nous ne sommes arrivés qu'en début d'après-midi, avec juste une halte pour manger un morceau avant Argentan, vers le haras du pain. Nous étions fourbus. Jeanne avait conduit seule sa petite 4L. Pas de danger que je prenne le volant. Je n'avais jamais eu envie d'apprendre. On avait beau, sans que je passe le moindre examen, m'avoir délivré un permis militaire en Indochine. Je ne m'étais jamais risquée à m'en servir. Les Bassards s'étaient sérieusement occupés des choses. Les abords de la maison étaient dégagés. L'intérieur sentait le propre. J'ai fouillé les armoires. Jeanne a fait notre lit. Comme elle m'a semblé petite, cette maison. Une entrée de 2 pas. Une salle, comme on dit là-bas. Un cabinet de toilette. Une cuisine. 2 chambres. Ma mère avait rassemblé dans la sienne les souvenirs de mon père. Son portrait en uniforme. Son sabre d'apparat de premier maître qu'il n'avait pas dû, faute de cérémonie, sortir bien souvent. Comme son bicorne aussi, resté neuf au fond d'un placard. Dans un cadre étaient accrochées ses décorations. La médaille militaire, la médaille coloniale avec les agrafes Tunisie et Tonkin, la médaille commémorative de l'expédition de Chine contre les Boxers. Je ne connais presque rien de sa vie de marin, de ce qu'il a fait au loin. Il est resté chiche en souvenir. Je sais pourtant qu'il avait vraiment aimé l'Extrême-Orient, surtout le Japon, où il était allé à la fin de l'autre siècle. Il en avait rapporté de lourds brûle-parfums en bronze, une paire de vases encloisonnés à motifs d'oiseaux et un drôle de cliché sépia où il pose chez un photographe de Nagasaki, vêtu en kimono avec un camarade d'équipage pareillement attifé. Son dernier bâtiment aura été le Brennus, un cuirassé de 12 000 tonnes, baptisé du nom du chef gaulois qui avait pillé Rome au IVe siècle avant Jésus-Christ. Était-ce parce qu'après, il ne naviguerait plus? Le Brennus sera le seul vaisseau de sa carrière dont il m'ait un peu parlé. Mon père en a débarqué en 1907. Il allait avoir 50 ans. L'année suivante, nous nous installions à Carole. « Tu es content ?» m'a demandé Jeanne. Le printemps était magnifique. Ma pauvre maison désertée avec son jardin en terrain vague m'a paru presque jolie. Décidément, avec elle, tout changeait. Nous sommes allés au bourg faire quelques courses. J'ai retenu une table pour dîner chez Duval, à l'hôtel de la Diligence. « Tu ne préfères pas que nous y dormions ce soir ?» Jeanne a secoué la tête. « Ah, sûrement pas. Rentrons vite recharger le feu et emmène-moi voir la mer. »
Voilà, Jeanne a des idées. Lui, dans la continuité de ce qu'il fait d'habitude, il l'invite au restaurant. Et Jeanne a pris sa décision, elle ira à Carole, et bien commençons dès maintenant. Et c'est pour ça qu'ils vont passer la première nuit à Carole, mais non sans être allés voir la mer. On voit qu'elle conjugue à la fois la décision d'aller habiter Carole, de se placer là. Elle aurait même voulu emmener son fils, mais lui est bien content qu'elle ne l'emmène pas. Il n'a rien dit pour autant. Et c'est ainsi que va commencer tout doucement ce qu'il appelle le fait qu'ils se rapprochent.
Chaque matin, nous partions pour de longues balades. Je remettais mes pas dans ceux de ma jeunesse. Mon âme d'autrefois m'ouvrait le chemin. Le dernier après-midi, nous étions au port de Lude, cette petite crique où la mer apparaît d'un coup après les détours du sentier entre deux pans de falaise. J'y étais descendue, la veille de partir m'encaserner à Strasbourg pour 4 ans en 1921. Et comme si le temps n'avait pas passé, j'ai ressenti à nouveau cette appréhension mêlée de hâte qui m'avait saisie alors. J'y avais ramassé un galet parfait, rond, veiné de noir, et je me l'étais fourré dans la poche. Ensuite, à chacun de mes départs, j'avais recommencé cette espèce de rite, va savoir pourquoi. Je l'ai fait jusqu'à la dernière fois, jusqu'au Laos. Je les ai tous gardés ou presque. J'en ai un petit sac plein dans mon bureau. Je devrais les rapporter ici, les rendre aux vagues, à la marée. Après tout, je suis rentrée maintenant.
Ce rite du galet est plus qu'un rite. Il dit à la fin, maintenant je suis rentrée. Il ne croit pas si bien dire, il est rentré chez lui. À Carole, chez sa mère, il est rentré au bord de l'eau et il veut rendre les galets à la mère, mais il fait une autre rentrée, c'est une rentrée à l'intérieur de lui-même, à la recherche de son enfance et d'un moment où il pourrait recommencer et rattraper ce qui n'a pas pu être rattrapé. Et on voit surgir cette espèce d'esprit un peu religieux, hein, quand avec Jeanne, ils s'en vont à Notre-Dame de la Garde parce qu'elle l'a demandé.
Mais d'abord, Jeanne a finalement accepté de venir habiter à Brétigny.
C'est Brétigny.
Pas de gaieté de cœur. Mais ça commençait à devenir compliqué, un vrai micmac. Nous nous retrouvions le plus souvent possible à Paris et je venais chaque fin de semaine à Senlis. Nous aurions dû peut-être vivre ensemble là-bas, mais sa maison était vraiment trop minuscule. Il aurait fallu louer plus grand, louer, c'est-à-dire encore des frais. Déjà que je finançais le garçon. Il ne s'en faisait pas trop, celui-là. Il avait arrêté son chinois, commencé des études de lettres qu'il voulait quitter pour se lancer dans la sociologie. Foutaise, sa mère le laissait faire. Moi, je ne me sentais pas de donner mon avis sur le sujet. Pas question de risquer la moindre chamaillerie. Avec Yvonne, j'avais définitivement épuisé mon compte de cris de reproche. Plus jamais. Sauf que je trouvais, pour le moins, ce nouveau fils bien désinvolte. Jeanne s'était résolue à quitter Senlis, après que je lui avais promis que nous nous installerions au plus vite à Carole. Enfin, vite. Il fallait quand même faire des travaux d'aménagement, voire agrandir. Je trouverais sans problème un travail de professeur par là, avait-elle dit. Elle avait hâte. Nous y étions retournés plusieurs fois. Moi aussi, j'étais impatient. Un an ? À sa première visite à Brétigny, j'ai compris que le temps allait nous sembler long et davantage à elle. Elle avait fait le tour des pièces, le petit salon, la salle à manger, mon bureau, la chambre, ouvert les placards de la cuisine. Je la suivais, plantée derrière elle, muet. Jamais ce pavillon ne m'avait paru aussi laid. Je l'avais entendue soupirer. Elle était sortie dans le jardinet et avait regardé le cerisier. Nous étions au tout début de l'été, les bigarreaux commençaient à prendre de la couleur. Elle avait secoué la tête, encore toute à ses pensées, et en me regardant, s'était forcée à sourire. « Je suis d'accord, bien sûr, » avait-elle assuré. « Mais je ne te demanderai qu'une seule chose avant que je ne revienne. Je voudrais que tu changes le matelas du lit et qu'on achète des draps neufs.
Voilà sa réaction. C'est un côté du livre très prosaïque et qui a son charme. C'est comme le panier de légumes du voisin quand il rentre tout à fait au début du livre.
Et là, on va arriver à Marseille.
Voilà. Alors, Marseille et Marseille, qui dit Marseille, dit la bonne mère.
En 1951, après mon humiliant retour d'Indochine, je m'étais trouvée en poste quelques mois au bureau de la France d'Outre-mer à Marseille. Je n'y faisais que ruminer en attendant de recevoir ma nouvelle destination coloniale. Je ne savais pas encore que ce seraient les Antilles. Jeanne était venue me remonter le moral. Elle était restée après avoir réussi à se faire embaucher dans une entreprise d'import-export. Elle se débrouillait toujours. « Tu dois faire face, François. » Elle avait tenu à m'embarquer dans une espèce de pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Garde, la bonne mère. Pourquoi pas ? Là-haut, j'avais été saisie par l'accumulation des ex-voto. Ils s'en trouvaient partout, pendus aux voûtes, accrochés sur les murs, des maquettes de bateaux, des tableaux naïfs, des plaques de marbre couvertes de merci en lettres d'or. Cela racontait des naufrages, des accidents, des maladies, des peurs. Dans une chapelle, j'étais restée un bon moment face à un casque de poilu de la Grande Guerre, troué au sommet par un éclat d'obus et déposé là en témoignage. J'ai essuyé bien des coups de feu pendant ma vie militaire. Ça a bardé pas mal de fois. Je m'en suis toujours sortie indemne, sans imaginer une seconde en rendre grâce à Dieu ni à ses saints. J'aurais dû. Mais à chaque fois, le danger passé, je me sentais un peu plus fort, victorieux, de je ne sais quoi, invincible. J'étais certain d'avoir la baraka. « Nous avons des demandes à confier nous aussi », avait dit Jeanne. Et dans la basilique, de me montrer la Vierge en argent, couronnée, dominant le maître-autel, en haut d'une colonne de marbre rouge. Elle avait serré ma main dans la sienne. Je ne sais pas prier, je n'ai jamais vraiment su. Pourtant, dans cet instant où je l'avais sentie si recueillie, j'avais essayé une fois encore. Dans ma tête, je répétais « Seigneur, réunissez-nous, Jeanne et moi. » Mes deux fronts, mes pensées m'entraînaient à souhaiter la mort d'Yvonne. Est-ce cela que l'on amène au pied d'un autel ? J'avais chassé mes désirs meurtriers et je m'étais forcée à réciter mon « Je vous salue Marie ». Mais les mots faisaient une ritournelle vaine. Le rosaire s'égrenait blanc, vide.
Après cette parenthèse à Marseille, les souvenirs reprennent et il passe un moment à se souvenir de la vie de lieutenant cavaleur qui avait beaucoup de succès avec une grande passion, c'est celle d'Hélène. Je la cite par acquis de conscience, mais le plus joli c'est souvenir, ça s'est passé au Tonkin, à Dyong-Kluk-Ké, au Tonkin.
C'est pas... Moi, j'en suis à sa lettre à De Gaulle.
Ah. Oui, et le voilà donc toujours en Bretigny. Et un jour, il reçoit une... Il écrit
après,
à De Gaulle.
Un an après ma retraite, j'avais envoyé une lettre à De Gaulle. Une très longue lettre où je lui déroulais toute ma vie de soldat, mes campagnes et cette fierté de servir mon pays qui ne m'avait jamais quitté. J'y parlais de mon ralliement sans réserve à la France libre, de Broche, de la Nouvelle-Calédonie, de l'Indochine, de l'Algérie. De ce qui avait été toute ma vie, je livrais pêle-mêle mes interrogations et ma confiance en lui. Je ne sais pas bien ce qui m'avait pris de me livrer ainsi. Mes journées alors étaient épuisantes d'ennui, de dégoût, de solitude. Yvonne éclatait en continuelle colère. Je me tairais. Je n'avais gardé aucun lien d'amitié. Je n'avais rien à dire, à personne, sauf peut-être à lui, ce général qui avait secoué les bêtudes de la défaite et qui, dans le Pacifique, m'avait redonné du souffle et du cœur. J'avais reçu une réponse quelques semaines après. 4 lignes signées sur une feuille à en-tête. « Je vous remercie de l'encouragement que m'apporte votre témoignage. C'était un peu court, mais j'étais content. » J'avais conservé le mot dans mon portefeuille. Je le relisais de temps en temps. Je m'en sentais réconfortée. Pauvre imbécile. L'autre jour, j'ai eu une discussion avec le garçon à propos des élections. Il est fraîchement majeur. Giscard a été élu en mai dernier et la majorité civique vient de passer de 21 à 18 ans. ce qui fait qu'il va pouvoir voter. Quand ? Je ne sais pas. Dans le prochain scrutin, car le prochain scrutin n'est pas pour demain. Tant mieux d'ailleurs, vu les opinions qu'il agite. Il y allait une fois de plus de ces grandes tirades contestataires. Nous avons fini de parler des présidents de la République et de De Gaulle fatalement. Je ne me souviens plus comment j'en suis arrivée à lui montrer mon petit autographe. Il l'a regardé distraitement d'abord, puis peut-être parce qu'il pressentait que j'y attachais de l'importance, il l'a repris et examiné avec attention. Bizarrement, trop. Il le regardait en transparence dans la lumière. Le retournait. Il commençait à m'agacer. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a regardé avec un drôle de sourire, moitié contrit, moitié goguenard. « C'est un faux, m'a-t-il dit, en me le rendant. Enfin, un fac-similé, un imprimé. Vous êtes sans doute nombreux à avoir reçu le même.
» Il avoue que ça a été un coup, alors qu'il voudrait ne penser qu'à Jeanne, parce que vous avez remarqué la césure entre le début de la lecture et l'autre. Il revient 5 ans en arrière, au début de sa retraite, et puis maintenant, il a ses 75 ans, et il pense essentiellement à Jeanne. Alors, de ce côté, il a un souvenir du Tonkin qu'il reprend chaque fois que ça, il se retourne dans le passé, chaque fois qu'il en a besoin.
J'étais au Tonkin. Lorsqu'après Langson, on m'avait confié le poste de Donkey, je m'étais retrouvée jeune lieutenant, seule en charge d'un territoire grand comme un de nos départements. Il fallait y faire régner l'ordre, garantir clairement la présence française et s'assurer particulièrement de la fidélité des tirailleurs annamites. Le commandement avait encore en mémoire la mutinerie de Yen Bai de février 1930 et la tentative de soulèvement de la population par les nationalistes vietnamiens, heureusement vite réprimée. J'ai appris là-bas à me méfier des sourires, des trop grandes manifestations d'amitié, mais aussi à faire confiance. Je serais restée volontiers plus longtemps. Je me sentais vraiment loin, à Donkey, détachée, presque paisible. Le calme, je sais, était trompeur. Je m'en rendrai bien compte à mon retour fin 1945. Le saccage alors ne ferait que commencer. N'empêche, il me suffit de fermer les yeux pour revoir les montagnes englouties sous la verdure épaisse, les rizières en terrasse. Je fais un signe de la main à ce petit lieutenant d'à peine plus de 30 ans, accoudé au créneau du poste, le regard perdu dans le paysage. Ma belle Indochine. Le garçon revenait de baignade. Elle était bonne ? Vous devriez, nous a-t-il dit, donner un nom à la maison. Elles en ont toutes. Nous nous sommes regardées, Jeanne et moi. Nous y avions pensé. Saïgon, la rue Pierre, la pagode, ce quartier de la ville où nous avions été heureux. Elle s'appellera Dakao, lui a répondu Jeanne.
Jeanne, la prend de l'aplomb, elle qui n'a jamais trop dit son mot, qui a suivi, eh bien, elle annonce le nom de leur maison. Et c'est en apposant un nom à la maison, elle lui donne en quelque sorte un signal, elle est à nous, nous avons notre lieu.
Et ils sont à la mer, donc nous allons conclure par un dernier petit paragraphe. Il y avait encore pas mal de monde à la plage, marée haute. Je ne me sentais pas très décidée à me montrer en maillot de bain. Jeanne m'a entraînée. « Tu es bête, nous sommes restés un moment à faire quelques brasses. Elle est sortie se sécher, m'a fait signe. Tu viens ?» Le soleil descendait doucement. Il dessinait un large trait orangé sur la mer. Les vaguelettes prenaient des reflets nacrés. C'était presque irréel. Je me suis mise à nager dans le rayon. Je ne sentais plus mon vieux corps. Je glissais sans fatigue. Chacun de mes mouvements me semblait parfait. Cela aurait pu durer encore longtemps si un petit nuage n'était pas venu voiler l'éclat dans lequel je m'avançais. J'étais loin de la grève. J'ai regardé autour de moi. Plongé ma tête un instant dans l'eau, essuyé mes yeux avec les paumes, regardé à nouveau. Je ne sais pas ce que j'attendais. Le ciel s'était dégagé, la lumière rasait la surface. Elle traçait un chemin, j'aurais pu continuer. Mais j'ai pensé à Jeanne, autant qu'il nous restait. Et je suis revenue, doucement, vers le rivage. Carole, 26 février 2019.
Voilà, c'était un an avant l'édition du livre. Qui est en 2020, Et on voit que le rapprochement avec Jeanne, il se fait, mais il se fait à travers la mer. Il a nagé trop loin et il a eu une tentation, c'est d'aller bien loin, encore plus loin pour mourir. Mais il pense à Jeanne et ça le fait revenir. C'est pas beau, ça.
À la semaine prochaine.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.